La vie, c'est ça, tu le sais bien. Un train s'en va, un autre vient. On prend toujours un train pour quelque part.
On prend toujours un train pour quelque part. Non, on ne parlera pas à... Voyons, c'est qui? C'est qui faisait son émission dans le train déjà, là? José Lito Michaud, c'est pas lui. On va parler à Yves Daou, directeur de la section Argent du Journal de Montréal et Journal de Québec. Salut Yves, tu veux nous parler de Via Rail, justement?
Écoute, moi, je sais pas toi, est-ce que t'aimes les trains ou les avions? Moi, j'adore les trains.
J'adore ça.
J'ai pris souvent celui qui va de Montréal à Québec, celui de Montréal à Toronto, des trains en Europe, j'en ai pris quelques-uns. Mais ce qui est intéressant, juste avant qu'on tombe sur l'ex-PDG de Via Rail, rappelle-toi là, tout le contexte des trains. Là. Une journée, tu vas prendre le train de Exo, là, l'ancien AMT, là. Puis là, ça va être, tu vas t'asseoir dans le wagon, ça va être marqué « Made in China ». Parce qu'on a donné un contrat de 69 millions pour construire des trains chinois pour ça.
Hey boy.
En 2018, tu comprends-tu, on a donné des trains à Alstom pour être construits en Inde. Donc,
ben
quand
oui.
Tu vas t'asseoir dans un train de du REM, tu vas voir sur le côté de la porte, là, « Made in India ».
On est bien généreux.
Puis là, ben, dans le cas de Via Rail, ben, ça va être marqué « Made in California ». Puis ça a été un gros contrat qui a été octroyé là par le PDG de Via Rail à l'époque là il y a presque 18 mois là en 2018 là de 1 milliard de dollars pour construire tous les trains là qui vont de le corridor Windsor-Québec qui est un okay. des ce qui est fascinant c'est que un an plus tard le PDG qui a donné un contrat de 1 milliard à Siemens Canada se retrouve à la tête président de Siemens.
Ben, c'est un hasard, c'est une coïncidence.
Oui.
Faut pas y voir quelque chose concerté
non,
tout ça. Non, mais il y a pas des clauses là-dedans. Écoute, des clauses spéciales qui quand tu donnes des contrats, ça va prendre, je sais pas, ça va prendre 5 ans avant que tu puisses travailler pour l'entreprise à qui tu viens de donner un contrat. Ça a pas de sens là.
Ben, actuellement, la règle là, au niveau des sociétés de la couronne, à Via Rail, c'est une société de la couronne, c'est 12 mois de...
Okay.
Mais normalement, là, ça devrait être au moins un bon 2 ans avant
ben,
de pouvoir...
Oui.
Ben, tu imagines hein, la journée où il était passé en entrevue, puis dans son CV, il voit son expertise, tout ça, puis là, il dit, qu'est-ce que vous avez fait comme réalisation? Ben, j'ai donné un contrat de 1 milliard à vous.
Écoute, et même, moi, j'irais peut-être même plus loin. Je me demande si ça faisait pas partie des discussions quand il a donné le contrat. C'est-à-dire, tu sais, tu parles au gars de Siemens, puis tu dis, regarde-moi le contrat. Toi, de toute façon, la vie oreille, là, ça arrive à son terme, là, ton contrat. Fait que nous autres, t'as moins gros contrat pour moi t'embaucher après. Je sais pas, là, mais tu sais, ça peut se faire. Puis c'est pas le premier à faire ce genre d'affaires-là.
La question, c'est qu'il faut quand même pas oublier, là, même si on est encore dans le Canada, là, ils ont payé quand même des impôts au Canada, là. Puis il faut surveiller notre... Juste te dire, là, depuis l'an 2000, là, à même nos impôts puis nos taxes, là, les contribuables ont injecté presque 5,8 milliards dans Via Rail. Puis en plus, on paye 4,3 milliards dans le refoulement seulement annuel des pertes d'exploitation. Parce que c'est pas une entreprise qui fait de l'argent. Là. Fait que ils prennent l'argent du public puis donnent des contrats à des compagnies étrangères pour construire des trains. Puis après ça, quand ils ont donné, ben les PDG se retrouvent...
Et que ça doit arriver souvent, ce genre d'affaires-là. Scratch my back, I'll scratch yours. Les retours d'ascenseur et tout ça. Donc lui, il est mort de rire. Donc il était embauché par la firme à qui il a donné un contrat quand même, d'un milliard de dollars. C'est pas rien,
c'est quand même
pas...
Puis l'autre affaire, ce qui était intéressant, c'est que dans le contrat, il y a des options qui pourraient amener le contrat jusqu'à 1,5 milliard. Fait qu'il va, c'est lui qui est tout au courant, dans le fond, presque du contrat. Fait que tu peux t'attendre que potentiellement, il va y avoir des options qui vont se rajouter, puis que finalement, le contrat ne sera plus 1 milliard, mais 1,5 milliard, et qui va profiter, évidemment, à Siemens.
Il y en a qui s'en sortent toujours bien, hein. Écoute, tu veux nous parler des dépanneurs qui vont ressembler de plus en plus à des épiceries.
Écoute, tu connais les dépanneurs de Couche-Tard qui ont commencé tout petits. Écoute, c'est le roi des dépanneurs, c'est Alain Bouchard. Écoute, on a des Couche-Tard puis des dépanneurs à travers le monde. Mais là, avec la crise de la COVID, je pense que beaucoup de ces dépanneurs-là ont vu une grande opportunité qui est celui de concurrencer les épiceries. Mmh. Et donc, Couche-Tard envisage actuellement à grande échelle, là, dans 1500 emplacements là, d'ici l'automne, là, de faire une expansion des dépanneurs où est-ce que tu vas avoir plus d'épiceries et en plus tu vas avoir la livraison à domicile.
Oui, écoute, si j'étais commerçant puis j'avais une épicerie, si j'étais épicier, je serais vraiment pas content. Je jugerais que c'est vraiment de la compétition déloyale.
Oui, mais ce qu'on pense, c'est que les gens vont vouloir aller peut-être à des commerces de proximité, tu sais, plus que des grands détaillants où ce que tu vas ou des grandes épiceries qui sont c'est immense, là, ben oui. Des IGA, tout ça. Donc, c'est une opportunité que Couche-Tard a identifiée. C'est quand même un gros joueur, un gros...
Ben, on s'entend là, que ce ne sera pas de la haute gastronomie. Là, un repas de Couche-Tard, là, ça va être quoi, un grill cheese ou quoi?
Oui, mais il ne faut pas oublier là, qu'il va à la fois chercher l'épicerie, puis il va aller chercher la concurrence aussi des Tim Hortons, puis des McDonald's là, qui offrent le café, mais les déjeuners, aussi les dîners. Donc, dans tout ça, là, je pense que Couche-Tard vise justement à attaquer à la fois le marché de Tim Hortons, attaquer le marché de McDonald's, puis évidemment les épiceries là, dans la situation de
Et puis, il y en a des Couche-Tard, comme je disais à Michel Gérard hier, là, t'en as un à tous les deux coins de rue, là.
Ah, c'est clair. Mais c'est quand même, quand tu penses que une entreprise du Québec est le roi des dépanneurs en Amérique du Nord et presque dans le monde, on peut se dire qu'on a...
En même temps, c'est un homme d'affaires, il a vu une opportunité, puis il saute dessus. Il a un fou d'une poche, pourquoi pas? Et là, Costco qui recule sur l'obligation du port du masque.
Oui, écoute, nous, on avait sorti ça là, il y a deux semaines avec des documents qu'on avait du siège social de Costco aux États-Unis, parce que Costco, c'est une entreprise multinationale, là, et qui obligeait les masques obligatoires à l'entrée des Costco. Ouais. Aux États-Unis, depuis 4 mai, c'est obligatoire.
Aux États-Unis.
C'est obligatoire dans les Costco.
OK, ils ont commencé ça ici au Canada.
Ils ont annoncé que le 18 mai, il y aurait les masques obligatoires au Costco. Sauf que la conférence de presse, je pense que c'était quelques jours avant le 18 mai, de Arruda et de Legault, qui disaient, nous autres, on peut pas le rendre obligatoire. Il y a des raisons légales, tu te rappelles, puis tout le monde comprenait cette affaire-là, de pourquoi c'était... Et je pense que Costco, ici au Canada, on dit, ben écoute, si le premier ministre dit le masque n'est pas obligatoire, moi, là,
Pourquoi on le ferait? Ben oui, mais es-tu allé dans un Costco récemment, Yves?
Oui.
OK, bon, le 2 mètres, oublie ça, là, il n'est absolument pas respecté.
Quand t'es en ligne, là, la personne n'est pas à 2 mètres en arrière de toi, là.
Ben pas en tout, et tous les scientifiques le disent, si tu ne peux pas respecter 2 mètres, tu dois porter le masque, parce que ça compense au moins. Et là, donc, il n'y aura pas de 2 mètres, puis il n'y aura pas de masque.
Non, pas de masque chez Costco. Ils recommandent, évidemment, mais nos journalistes qui ont été se promener, là, au moins la moitié et plus, n'avaient pas de masque.
Ben oui.
Fait que cet appel-là au masque obligatoire, tu sais, quand c'est volontaire, ben c'est sûr que, mettons que il y a des gens qui... Tu sais, même moi, j'oublie mon sac, des fois, dans l'auto pour aller...
Je comprends les gens de Costco qui disent pourquoi on serait plus catholique que le pape si le gouvernement lui-même veut pas l'imposer, pourquoi nous autres on l'imposerait? C'est pour ça que moi je reviens tout le temps là-dessus, je martèle le même clou. Ils devraient le rendre obligatoire dans les transports en commun et dans les commerces où on ne peut pas respecter le 2 mètres. C'est le cas chez Costco.
J'aimerais bien savoir c'est quoi l'aventure, le danger légal de tout ça.
Ben non,
personne ne l'explique.
Non, c'est parce qu'il en manque. Je pense qu'il se dit qu'il manque de masques, que ce serait discriminatoire parce qu'il y a des gens qui auraient des masques, puis il y a des gens qui n'auraient pas de masques. Mais de nous dire que c'est la charte des droits, là, selon moi, c'est vraiment à rire de nous autres. Là. C'est vraiment à rire de nous autres. Donc, Costco qui recule là-dessus.
Recule là-dessus.
Ben, coudonc.
Fait que C'est qu'on verra si les il y aura, bon, ça va dépendre de tout le déconfinement de Montréal. Est-ce que ça va aller bien, tout ça? Peut-être qu'à un moment, ça reviendra, cette idée de l'obligation du port,
ben oui.
du masque, mais pour le moment, il y a du monde qui ont reculé là-dessus.
Bon, ben merci beaucoup, Yves. Bon week-end. Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, d'où l'importance pour le gouvernement de le rendre obligatoire, parce que Costco, je les blâme pas. Pourquoi être plus catholique que le pape? Le gouvernement ne nous oblige pas à le faire, fait qu'on le fera pas, mais le gouvernement devrait, et là, je dis pas partout, en région. Il y a Montréal, puis il y a les régions. Moi, je parle de Montréal et je parle pas d'obliger des gens à porter un masque dans la rue. C'est-à-dire, tu portes un masque dans les transports en commun et tu portes un masque dans les commerces et dans les endroits fermés où il n'est pas possible de respecter la règle des 2 mètres. Voilà. Et tous les scientifiques le disent, mais vraiment, il y a des rapports, des études, des analyses qui ont été faites dans toutes les plus grandes universités du monde qui disent que la meilleure façon de se protéger d'un virus respiratoire, c'est de porter un masque parce que le virus se propage par les gouttelettes. Puis on l'a vu que les gouttelettes peuvent même traverser, 6 mètres? 6 mètres dans les airs. Donc, c'est bien beau là, tousser dans ton coude, mais c'est pas suffisant parce que quand tu tousses dans ton coude, il y a des gouttelettes qui s'en vont partout. Tu portes un masque, tu te protèges et tu protèges la personne en face de toi. Je ne sais pas comment ça se fait. Je me souviens de Louis Lacroix qui est journaliste chez Cogeco qui avait demandé en point de presse à François Legault comment ça se fait qu'à Paris il est obligatoire dans certains endroits, à New York il est obligatoire dans certains endroits et pas ici à Montréal. Qu'est-ce qu'eux autres ont compris que nous autres on n'a pas compris? Est-ce qu'on est plus intelligent que les autres? Mais en tout cas, ça brette sur le port du masque obligatoire malheureusement.